RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons Virginie Calmels, première vice-présidente des Républicains, mais notre première invitée est Hugo Bernalicis. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes député de la France insoumise du Nord. Alors vous êtes né politiquement dans la pouponnière de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez eu un grand-père communiste et syndicaliste, un père qui a milité 25 ans au Parti communiste. Vous faites un petit tour au PS en 2007, mais vous revenez à vos fondamentaux dans le giron du Parti de gauche. Alors samedi à Paris, à l'initiative de François Ruffin, 40 000 manifestants ont répondu présents à la fête à Macron, un rassemblement plutôt calme malgré l'interpellation de jeunes qui s'en sont pris à un camion-régie de Radio France. Et à cette occasion, qu'on l'a vu poindre aussi, des tensions, vous allez nous le dire, entre le député de la France insoumise et d'autres personnalités du parti, et notamment avec Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon, qui lui a des ambitions internationales, votre leader est aujourd'hui en Russie, puis fera une tournée à l'étranger. Mais d'abord, aller en Russie pour y faire quoi et y rencontrer qui ?
Eh ben, il est en fait en Russie pour aller rencontrer Udaltsov, j'essaie de bien prononcer son nom, qui est le leader de l'équivalent du Front de gauche en Russie. Il y va aussi pour plusieurs raisons, Jean-Luc Mélenchon, pour rappeler que nous voulons qu'il y ait une sincère amitié et de la paix avec le peuple russe, et on voulait le redire par le biais de ce voyage.
Pourquoi la paix, vous dites, pourquoi il y a la guerre avec la Russie?
Attendez, il y a quand même des va-t-en-guerre au niveau à la fois de l'Union européenne, du Parlement européen et de la Commission européenne, où on a l'impression qu'on retrouve une rhétorique un peu guerrière de tension avec la Russie depuis déjà maintenant au moins 3 ans. Ce qui est un peu symptomatique, parce que tout ça peut très vite s'enchaîner et mal tourner. Il y a encore des sanctions financières qui sont appliquées auprès de la Russie. C'est d'ailleurs pour ça que Jean-Luc Mélenchon rencontrera les investisseurs français en Russie. Tout ça sont des sujets très sérieux. Et moi, je ne suis pas pour une escalade, une montée des tensions avec la Russie. Parce que si on veut la paix, alors il faut la faire.
Il rencontre donc le leader du Front de gauche en Russie. Je crois d'ailleurs que ça s'appelle en effet rigoureusement comme ça, Front de gauche, si on traduit.
Oui.
Mais quelle est la fonction de ce parti en Russie? Parce que la situation politique n'est pas la même Russie et chez nous.
C'est un parti d'opposition, ça ne vous aura pas échappé.
Oui, mais Front de gauche.
Parce que, en réalité, nous... C'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon va en Russie que nous voulons la paix avec la Russie, etc., que nous reconnaissons Vladimir Poutine comme légitimement élu, comme Emmanuel Macron, que pour autant nous ne soutenons pas plutôt les partis d'opposition que Vladimir Poutine. Parce que vous savez, pendant la campagne présidentielle, on a eu l'impression qu'on était les premiers soutiens de Vladimir Poutine en France pendant l'élection présidentielle, simplement parce qu'on disait qu'il fallait avoir une attitude responsable à l'égard de la Russie. Donc voilà une manière aussi de mettre les choses au clair et de le faire de manière, organisé.
Vous dites que vous reconnaissez Vladimir Poutine comme le président de la Russie, élu comme Emmanuel Macron. Vous êtes sûr que le parallèle est absolument pertinent? Dans un cas, je pense qu'a priori, personne ne pourrait dire qu'Emmanuel Macron n'est pas un démocrate. Or, certains disent que Vladimir Poutine n'est pas tout à fait un démocrate.
Moi, je pense que la démocratie va mal dans toute l'Europe.
Ouais.
Les systèmes démocratiques vont mal. Pas forcément dans la même proportion.
C'est un démocrate ?
Non, mais pas dans la même proportion. Ouais. Oui, je pense que c'est un monarque présidentiel. Vous voyez, je pense que c'est ça qui le caractérise le mieux. C'est qu'aujourd'hui, la démocratie, finalement, on s'en accommode, mais que l'essentiel, c'est... certains diront une autorité renouvelée. Moi, je trouve qu'on rentre dans un autoritarisme qui est un peu
problématique.
Et celle
de Poutine qui se fait élire pour la énième fois.
Ah, mais c'est un problème. C'est pour ça qu'on soutient l'opposition sur place.
Oui, alors justement.
Oui, on essaye d'être cohérent.
J'entends bien, mais le chemin de Vladimir Poutine est tout de même jonché de cadavres, que ce soit des opposants ou des journalistes. Ça ne vous dérange pas ?
Mais si, ça me dérange. C'est bien pour ça que je vous dis que nous soutenons l'opposition à Vladimir Poutine.
Donc vous n'allez pas rencontrer ni les officiels, ni Poutine.
Non, il n'y aura aucune
rencontre. Donc là-bas, le message,
c'est Marine Le Pen, vous savez, qui rencontre Vladimir Poutine et les officiels. C'est pas nous. Donc c'est pas notre culture politique, ni nos amis politiques. Mais il faut être bien clair. C'est-à-dire que demain, nous sommes à la tête du pays, nous sommes à la tête de la France. C'est pas parce que nous soutenons là l'opposition à Vladimir Poutine que nous n'aurons pas une discussion de pays à pays avec la Russie qui vise à œuvrer pour la paix et non pas augmenter les tensions. Voilà, je pense que les gens sont capables de comprendre qu'il y a une distinction à faire entre quelles sont nos convictions politiques et un rapport d'État à État qui est somme toute assez différent. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a très bien compris lui-même puisque la première rencontre qu'il a organisée en France, c'est avec Vladimir Poutine à Versailles.
Est-ce que, parce qu'on sait que à la France insoumise et particulièrement Jean-Luc Mélenchon est anti-atlantiste, il n'aime pas les Américains, est-ce que dans le fond vous
c'est pas qu'on n'aime pas les Américains, peut-être on peut être un tout petit peu plus précis, quand on dit qu'on n'est pas atlantiste, c'est d'une la politique américaine plutôt que les Américains, parce que je pense que Bernie Sanders par exemple, on l'aime bien et il est américain, il n'y a pas de souci avec lui, et surtout l'OTAN. C'est la politique de l'OTAN.
Cependant, est-ce que vous ne faites pas un peu de manichéisme, c'est-à-dire que vous faites de Moscou la capitale du bien et Washington la capitale du mal?
Non, mais c'est pas ça. C'est juste l'OTAN fonctionne de manière manichéenne. Ça c'est clair. C'est que soit c'est rouge, soit c'est blanc. Ça c'est le fonctionnement de l'OTAN. Et que du coup il y a des contrepoints à l'OTAN et la Russie est un des contrepoints, mais pas le seul. D'ailleurs notre politique nous internationale, notamment en matière de défense, n'est pas de s'aligner sur la Russie. Ce n'est pas du tout ça. Nous sommes pour un nouvel indépendantisme français, pour rappeler que la France doit avoir une parole indépendante. Elle doit pouvoir discuter avec la Russie, mais elle doit aussi pouvoir discuter avec les États-Unis, sans être pour autant dans les valises, les bagages accompagnés de cette organisation qui est impérialiste et qui continue d'être une organisation va-t-en-guerre qui ne respecte pas le cadre de l'ONU, et ça, pour nous, c'est un problème.
Alors, Roselyne le disait, après la Russie, donc, il y a une tournée internationale de Jean-Luc Mélenchon. Il a pour ambition de créer une espèce de club international. Vous allez nous préciser de quoi il peut s'agir. C'est quoi? C'est une espèce de tentative, précisément parce qu'on parlait de l'OTAN, de reconstruire le mouvement des non-alignés?
Vous savez, dans les fondements de notre mouvement, de notre histoire politique, il y a l'internationalisme. Mmh. Et c'est pas juste l'internationalisme, c'est pas juste un truc qu'on dit comme ça, on est internationaliste, ça doit se mettre en pratique aussi. C'est pour ça qu'on a effectivement des discussions à travers le monde, avec des tas de forces politiques, évidemment en Europe, parce que la proximité fait que c'est là aussi que ça se passe, mais dans le monde entier. Et on essaye de revoir pour faire un internationalisme qui soit éco-socialiste et qui soit sur une base idéologique, qui soit renouvelée, qui soit porteuse d'espoir dans le monde entier. Je pense qu'on a notre partie à jouer sur ce thème. La France reste une grande puissance mondiale, enfin je crois, je le pense sincèrement, et que faire 20%, quasiment 20% en élection présidentielle dans une grande puissance mondiale, eh ben ça vous donne un peu de responsabilité en matière d'organisation de la bataille politique à l'échelle internationale.
Mais le but, pour reprendre la question de Frédéric, le but de ce club mondial, c'est quel est l'objectif? C'est quoi, de faire une révolution mondiale?
La révolution citoyenne. C'est la révolution citoyenne. Je veux dire, ce qu'on pense, et c'est pour ça qu'on a une portée universaliste, c'était le fondement finalement des constituants de 1789. Cette volonté de dire liberté, égalité, fraternité. Voilà, on le met, c'est un peu libre de droit.
Ça s'est fait dans la violence tout de même.
Non mais, bien sûr. Mais vous savez, ça peut aussi se faire de manière tout à fait tranquille, comme notre manifestation l'a faite à Macron le 5 mai dernier, où c'était pas juste calme. Moi, j'ai pas trouvé ça calme. Moi, je trouvais ça très joyeux, festif, animé. C'était pas le calme.
À part quelques pancartes, on va en reparler.
Non mais vous disiez calme, j'imagine calme au sens où il n'y a pas eu de débordement avec les forces de l'ordre, etc. Sauf que quelques énergumènes qu'on a très vite renvoyés dans leur corde et qui se sont pris à un camion de Radio France qui n'est pas du tout malin. Encore une fois, si vous voulez faire parler d'eux, je pense que c'est réussi. Mais ça, c'est pas notre ligne politique. Ouais.
Alors Mélenchon est toujours pour l'alliance bolivarienne. C'est vrai qu'on l'a beaucoup interrogé sur le Venezuela. Quand on voit aujourd'hui.
On va pas
radoter. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit le résultat, on parle même plus de crise économique au Venezuela, c'est une crise humanitaire.
Mais attendez, il faut bien revenir sur ce que c'est que l'Alliance bolivarienne. C'est un organisme de coopération des territoires sur place. Pourquoi on avait proposé ça? Parce qu'il y a quand même la Guyane, c'est dans le secteur, quoi. Donc, c'est pas parce que, vu de Paris, tout ça est très très loin et qu'on s'en fiche, qu'il faut pas songer à comment, localement, on coopère avec les pays qui sont aux alentours. C'était une proposition de bon sens. Et vous savez, l'alliance bolivarienne, ça veut pas dire s'aligner sur le Venezuela ou je sais pas quoi. Il y a des pays qui sont pas du tout de la couleur politique du Venezuela.
Bah, vaut peut-être mieux pas s'aligner sur le Venezuela aujourd'hui.
En plus, mais non, mais c'est pas notre modèle. Donc moi, j'ai pas de difficulté avec ça.
Chavez a été le modèle de Mélenchon.
Non, mais ça n'a jamais été un modèle. On regarde ce qui se passe sur place et on voit qu'effectivement il y a des expériences qui étaient intéressantes sous Chavez, notamment sur la résorption des inégalités. Est-ce qu'on peut au moins être content quand il y a la résorption des inégalités dans un pays? Moi je pense que oui, parce que c'est un objectif politique qu'on doit poursuivre.
Peut-être ça dépend à quel prix ça se fait.
Ah, mais bien sûr.
Aujourd'hui, selon vous, qui est responsable de cette crise terrible que traverse le Venezuela?
Moi j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs facteurs. Mais le facteur économique est celui de la question
de choix politique de privatiser tout, de nationaliser pardon.
Je pense pas que ce soit la nationalisation en tant que telle qui soit un problème, mais c'est clair que d'avoir nationalisé la production. D'avoir nationalisé la production de pétrole, le premier effet que ça a eu, c'est un effet redistributif dans le pays, de résorption des inégalités. Non mais je veux le dire parce que c'est important, sinon on comprend pas ce qui se passe. Ça c'est important et ça c'est utile. Le problème c'est que le monde dans lequel on se trouve évolue et que le pétrole n'est pas une ressource d'avenir et que le nationaliser et faire en sorte que ce soit quand même la masse de l'apport financier pour le pays, bah dès que le pétrole s'écroule ou qu'il y a un problème économique sur le prix du pétrole, et ben vous mettez en difficulté votre pays tout entier. Voilà le problème principal et central qu'a eu le Venezuela. Il n'a pas diversifié.
Il a envie de se saisir dans le même panier comme
on dit. Je crains que oui. Et c'est clair que c'est pas le choix qu'a fait par exemple l'Équateur qui a diversifié ses revenus de l'État, qui a pas tout misé sur la production de pétrole. Et ils ont bien fait parce qu'ils ne sont pas dans la même crise politico-économique dans laquelle se trouve le Venezuela.
Alors on va revenir à la France. Donc samedi dernier, à l'appel de François Ruffin, donc 40 000 personnes, je le disais, étaient dans les rues de Paris pour...
Ça c'est les chiffres de la police.
Vous dites...
On a annoncé 160 000.
Mais bon, ça, si c'est vous la voulez, bataille classique. La donc, comme personne ne compte, de toute manière, chacun y trouvera ce qu'il veut. Beaucoup se sont émus de caricatures de Macron avec les doigts et un nez crochu et une pancarte qui a même enflammé Twitter. Macron appelé Mac Aaron pour signifier une connotation juive. Est-ce que ça vous choque pas quand même?
Je sais pas, j'ai pas vu cette pancarte.
La photo, Mac Aaron, escroc, sioniste, et barré sioniste.
Ah ouais.
Ah ouais. Bon. Vous l'avez pas vu sur les réseaux sociaux?
Non, j'ai pas. Bah, si vous voulez, je passe pas ma vie sur les réseaux sociaux. J'y suis pas mal, mais je passe pas ma vie dessus. Et c'est, après, c'est le propre d'une manifestation où chacun vient avec son pancarte, son mot d'ordre. Vous avez vu que c'est pas une pancarte avec un fille, etc., ou, qu'on a distribué ou une organisation politique ou fakir ou je sais pas quel parti. Donc voilà. Après, je pense que il faut pas non plus qu'on tombe dans la difficulté qu'on a dans le pays aujourd'hui à questionner la politique du gouvernement israélien, parce que c'est un problème. Je pense que vous suivez ça de très près avec ce qui se passe vis-à-vis de l'Iran, la position des États-Unis, où on peut quand même se dire qu'aujourd'hui le gouvernement israélien pose un problème dans la région par une politique belliciste.
Oui, voilà. Alors,
est-ce qu'il faut faire un amalgame?
Ça n'a pas à voir avec Emmanuel
Macron. Emmanuel Macron, j'ai pas l'impression qu'il s'oppose à quoi que ce soit dans l'histoire. Plutôt, il se range du côté de Donald Trump en refusant de dire qu'il faut appliquer le protocole qui a été
iranien,
négocié.
Sur l'accord iranien, pas vraiment, non? En tout cas.
Il se range du côté de Donald Trump.
Bah non, puisque Macron. Donald Trump ne veut pas d'accord avec de l'accord sur le nucléaire. Donc il se range pas à ses côtés.
Je sais pas, c'est pas clair. Vous trouvez que c'est clair, vous, la position d'Emmanuel Macron? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est suiviste. J'ai plutôt l'impression qu'il est
L'accord,
suiviste.
Il a été signé bien avant.
Ouais. Mais il se bat pas pour Emmanuel Macron. Oui, mais il se bat pas pour le faire respecter
dimanche dernier. Enfin, pas dimanche dernier, mais il y a quelques jours à Washington, il y a eu une forme de compromis. Apparemment, Emmanuel Macron a dit on va essayer de trouver un autre accord sans pour autant se débarrasser du premier. On saura ce soir.
Mais sauf que
si Donald Trump jette aux orties.
Mais c'est une manœuvre un peu étrange de dire sans remettre
en cause le premier.
Ce n'était
pas ce qu'il voulait initialement, Emmanuel Macron, en effet.
Vous voyez bien que ce n'est pas clair. Il y a un moment donné, soit on est pour l'accord initial et pour le faire appliquer, et éventuellement on rediscute d'autres choses, mais les choses sont antagonistes.
Cela dit, on s'est un peu éloigné quand même du sujet d'origine qui était cette pancarte à Aaron, dont on entend bien phonétiquement l'allusion
non, mais c'est
à
pas malin,
des éventuelles origines juives, et ça renvoie, vous le savez bien, à d'autres images qui avaient déjà été publiées pendant la campagne, qui avaient été reprises par Gérard Filoche, qui ferait comme ça une espèce d'allusion à une collusion avec la finance juive. Enfin, vous voyez bien de quoi il s'agit.
J'entends bien. Ce n'est pas ni ce que je pense politiquement, ni ce que je défends politiquement, et je trouve vraiment que c'est pas malin comme pancarte. Oui. Voilà, je vous le dis, c'est pas une pancarte visiblement de la France insoumise. J'ai pas de difficulté avec ça. Mais attention à ne pas nourrir quand même, comme l'a fait Gérard Collomb sur France Inter un matin, la veille de la marche en hommage à Mireille Knoll, où il a quand même laissé sous-entendre que nous aurions des antisémites dans nos rangs et que nous-mêmes, nous ne serions pas clairs sur le sujet de l'antisémitisme. Oui, nous condamnons l'antisémitisme toujours, tout le temps, en tout lieu, en tout temps, et le racisme et toutes les discriminations que vous voulez, parce qu'on est le parti de l'humanité, liberté, égalité, fraternité, et qu'on ne sortira pas de ça. Et donc, ne faisons pas d'amalgame et ne laissons pas de place au doute sur ces sujets-là. C'est vraiment extrêmement important, notamment pour la cohésion du pays. Parce qu'après, sinon, vous avez des neuneux comme la Ligue de Défense Juive, là, une organisation groupusculaire d'extrême droite, qui se permet de nous attaquer dans la manifestation.
Mais vous réclamez en même temps le droit d'être critique à l'égard d'Israël,
oui, bien
le
sûr.
Droit d'être éventuellement antisioniste. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, chez un certain nombre de personnes, c'est aussi parfois la fausse barbe d'un antisémitisme ?
Mais peut-être, sans doute. Mais à un moment donné, on peut pas faire une généralité. Vous pouvez pas dire tous les gens qui sont critiques du gouvernement israélien, du coup, font des amalgames. Parce que sinon, on peut plus parler, on peut plus rien dire, on peut plus critiquer. Et ça pose un vrai problème dans le pays. Mais par contre, il faut effectivement combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes, très clairement. Mais pas faire d'amalgame. Parce que faire un amalgame, c'est justement manquer à ce combat qui est extrêmement déterminant et important.
Mais est-ce que tout de même, sur un sujet, on a vu la semaine dernière pour les manifestations du 1er mai, Mélenchon a dû s'expliquer pourquoi lorsqu'il y a eu l'attaque des Black Blocs dans les rues de Paris, Jean-Luc Mélenchon a tout de suite avec un tweet, sans réfléchir vraiment, désigné comme l'extrême droite, comme les responsables. Voyez,
C'est très intéressant tout ce qu'on se raconte là sur l'extrême droite, le 1er mai, les Black Blocs, la pancarte dans la manifestation, mais quand même, s'attarder sur une pancarte alors que vous avez des milliers de personnes qui étaient là dans la rue de manière festive, joyeuse, pour avoir, avec
mais
des
si
revendications
ça avait été le Front concrètes. National, non, mais attendez, on leur proche dès qu'il y en a, y a un idiot qui a des propos racistes, tout le monde.
Oui, avec un autocollant Front National.
Bah pas forcément, non.
Bon, écoutez, bon.
Bah parce qu'il faut avoir l'autocollant pour.
Peu importe. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de réduire un événement qui était majeur dans le pays avec des syndicalistes, des associatifs, des personnes qui venaient avec leur lutte, juste une pancarte. Ouais. Attends, mais je vous le dis parce que c'est assez énervant. On va pas être là pendant 3 heures, donc on va pas disserter sur les black box, etc. Et moi, j'aimerais pouvoir dire que cet événement, c'était un bel événement de coagulation des luttes, pour reprendre les mots du président de la République.
D'accord. Alors, on va en parler.
Il y a une autre date qui sort de ça, celle du 26 mai, et qu'en plus les choses avancent et que potentiellement, je l'espère, la CGT a mis en discussion cette date en interne au niveau confédéral, et c'est un bon signe pour moi, parce que l'objectif, c'est pas que ce soit un truc de la France insoumise, j'espère que tout le monde l'aura bien compris, l'objectif c'est qu'il y ait un maximum de gens calmes, pacifiques, joyeux, festifs, dans la rue, pour mettre en échec la politique.
Alors une fois de plus, quelle est votre démarche? Est-ce que vous pensez que la rue a un pouvoir de renverser un pouvoir légitimement élu?
C'est quoi l'objectif? Faire reculer une réforme, ça s'est déjà vu dans l'histoire. Vous savez, vous vous souvenez peut-être le CPE, moi j'étais au lycée, c'était des belles manifestations. La réforme, la loi a été abrogée. Bon, très bien. Voilà, la démocratie, on peut pas réduire la démocratie à juste l'élection présidentielle, un chèque en blanc, et allez-y, c'est bon pour 5 ans, on vous laisse les clés. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est aussi le droit de grève et le droit de manifester. Ou alors, faut m'expliquer qu'on n'en veut plus dans une démocratie. Certains sont tentés à la droite, voire à la droite extrême, voire à l'extrême droite, de revenir sur ces droits fondamentaux, ces droits constitutionnels. Je pense que tout le monde défend quand même le droit de grève et le droit de manifester. Donc oui, c'est tout aussi légitime que la légitimité que le gouvernement a à vouloir faire voter et appliquer ces réformes.
Le 26 mai, donc, des mouvements de gauche très nombreux devraient manifester ensemble, des syndicats aussi. Et puis
Et les gens
le 27 mai, chacun repartira de son côté. Est-ce que l'union des gauches, aujourd'hui, reste un rêve inaccessible?
Regardez, le discours était le même avant le 5 mai. C'est-à-dire, vous allez manifester, puis le 5 mai, puis après, chacun va repartir de son côté. Ben non, regardez, il y a le 26 mai.
Vous retrouvez le 26, vous avez l'impression que vous êtes en train de construire l'union des gauches?
Mais c'est pas l'union des gauches, l'objectif. Non, mais ce n'est pas l'objectif. En tout cas, c'est pas celui que nous poursuivons. Nous, l'objectif que nous poursuivons, c'est fédérer le peuple dans toutes ses composantes, afin qu'on soit les plus nombreux possibles, et notamment de toucher les gens. Parce que si vous mettez que les mêmes de d'habitude de gauche pour faire une belle photo, et que vous n'avez pas les milliers de personnes derrière vous, ou devant vous d'ailleurs, en l'occurrence, vaut mieux qu'ils soient devant nous, ça devient extrêmement compliqué. Donc l'objectif, fédérer le peuple, et si en plus toute la gauche est là, tant mieux.
Voilà, on a terminé la première partie de cette émission. Merci Hugo Bernalicis. On se retrouve tout de suite après un point sur l'actualité.
Merci.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 RFI avec notre deuxième invité. Bonsoir Virginie Calmels.
Bonsoir.
Vous êtes première vice-présidente des Républicains et vous êtes aussi première adjointe au maire de Bordeaux, Alain Juppé. Alors le 7 mai 2017, Emmanuel Macron était élu président de la République. Vous faites quel bilan des un an de Macron au pouvoir ?
Écoutez, ce qui me frappe, c'est que j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron laisse de côté une partie des Français dans sa politique. Il y a des choses positives et je dirais pas le contraire. Je pense qu'il a restauré une image de la France sur le plan international. Il fait beaucoup mieux que François Hollande. Bon, les mauvaises langues pourront dire que c'était peut-être pas difficile. Et puis,
qu'est-ce que vous appelez, pardon, restaurer l'image de la France ? Pourquoi il la restaure ?
Globalement, on a le sentiment qu'il y a une bonne image. Qu'il y a, d'abord, on est un pays qui a résisté au populisme et aux extrêmes. Ça, il faut reconnaître que c'est une bonne chose. Moi, je reste convaincue que même si la communication mélenchonesque est très théâtrale et avec d'ailleurs un talent oratoire évident, ça reste une politique catastrophique pour la France si elle était mise en œuvre, et de même pour le Front National qui d'ailleurs partage grosso modo le même projet économique que l'extrême gauche. Donc de ce point de vue-là, le fait que la France n'ait pas cédé, je vous rappelle qu'il y avait eu le Brexit en Angleterre, qu'il y avait eu cette élection de Trump qui a été quand même très contestée, le fait que la France ait fait le choix démocratique d'Emmanuel Macron était probablement une bonne chose pour notre image à l'international et y compris d'ailleurs pour les Français. Maintenant, je suis sur un bilan mitigé. Pourquoi ? Parce que je le trouve extrêmement centralisateur, Emmanuel Macron. Moi, vous savez, je fais de la politique depuis 4 ans, j'ai passé 20 ans en entreprise. Et ce qui me frappe, c'est qu'il nous a promis une révolution et j'ai l'impression que c'est encore plus de technocratie que ce que l'on a eu par le passé. Globalement, un président de la République, énarque, inspecteur des finances, un premier ministre, énarque, conseiller d'État. Partout, la technocratie a repris la gouvernance des grands ministères et des grandes fonctions. Et ça se sent dans la politique qui est menée. Des gens qui sont très déconnectés.
Ça n'aurait pas été la même chose avec Alain
quotidien.
Juppé.
Alain Juppé a son profil que vous connaissez effectivement, mais je pense qu'il avait effectivement compris qu'il fallait gouverner avec d'autres profils et surtout qu'il le disait Alain Juppé, qu'il ne fallait pas laisser à l'administration le pouvoir par rapport aux politiques. Et pour reprendre la main, regardez aujourd'hui les ministres n'existent pas, ils sont très peu connus, ils ont une notoriété très faible, on ne les entend pas et c'est finalement l'administration et donc la technocratie qui continue, et j'aurais tendance à dire depuis maintenant des dizaines d'années dans notre pays, à nous gouverner. Et c'est un problème, voyez, les 80 km/h, c'est une déconnexion totale avec le concret. Calmels,
on ne saura jamais.
La non-baisse de la dépense publique, c'est un énorme problème.
On ne saura jamais ce qu'aurait donné un quinquennat d'Alain Juppé.
Mais, et on n'est pas là pour faire de la politique fiction.
Vous disiez le mois dernier à propos d'Emmanuel Macron, qu'avec sa politique social-démocrate, il est le digne héritier de François Hollande. Vous avez été moins sévère.
Je vais vous dire, sur certains sujets, effectivement, il s'est un peu éloigné de François Hollande, je le reconnais. Notamment l'exit tax, il a surpris tout le monde.
La réforme de la SNCF,
la réforme du Code du Travail. Mais vous savez, c'est comme tout, il ne faut pas résumer une politique à des petites phrases, et moi, je n'aime pas faire ça. Donc, si on va dans le détail, que ne fait pas Emmanuel Macron? Il ne fait pas
en
déjà...
la petite phrase, c'est la vôtre. Hein.
Oui, oui, mais elle est sortie d'un contexte. Mais il est social-démocrate, Emmanuel Macron. Donc, je vous le redis ce soir, c'est un social-démocrate. Et à quoi on reconnaît un social-démocrate? Bah, d'abord, il ne baisse pas la dépense publique. Il continue à augmenter l'impôt. Et l'impôt, il augmente pour les classes moyennes. Il augmente pour les retraités. Il augmente finalement pour le plus grand nombre. Et il a une politique qui apparaît encore, la politique de « j'ai recours à l'argent des Français que je vais prendre dans leur poche pour financer alors une
politique ». Mais il le baisse
politique.
Pour les plus riches, l'impôt. Et ça ne vous dérange pas?
Je ne sais pas, parce que dans le propos, j'aime bien être
en général,
cohérente,
quand on entend
«
il augmente les impôts pour les plus pauvres », mais il les baisse pour les plus riches, mais ça, vous ne le dites pas.
J'aime bien être cohérente, je vais vous dire. Moi, j'ai toujours considéré que, par exemple, l'ISF était un mauvais impôt. Oui. Donc, je ne vais pas aujourd'hui pousser des cris d'orfraie pour dire il a supprimé que la moitié, d'ailleurs. Et d'ailleurs, assez étonnamment, il a fait le choix, justement, de ne pas toucher à l'ISF sur la partie immobilière. Et donc, de ce point de vue-là, finalement, à condamner des gens qui ont travaillé toute leur vie pour se payer une résidence secondaire ou dépasser certains seuil en termes immobiliers. Mais pour moi, la politique, c'est un ensemble, c'est pas qu'une mesure. Donc, évidemment, de temps en temps, d'ailleurs, on dit, tiens, Emmanuel Macron fait la politique de la droite. Non, il y a une ou deux mesures qui, effectivement, et nous les partageons, la réforme de la SNCF, vous avez bien vu que les députés, les Républicains, ont voté massivement cette réforme. Pourquoi? Parce qu'elle va quand même dans la bonne direction. Mais nous avons un autre sujet, et on ne le sent pas traité par Emmanuel Macron, qui est la défense de nos territoires ruraux, avec la fermeture des classes, avec les petites lignes ferroviaires. Nous avons la volonté de défendre nos retraités parce que nous ne croyons pas qu'il faut faire une croix sur des Français qui habitent dans la ruralité ou sur des retraités. Et donc, nous avons une autre approche politique. Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, pour moi, est d'abord et avant tout un technocrate, très déconnecté de la réalité des Français, très social-démocrate au sens où il continue à dépenser de l'argent qu'on n'a plus. Vous vous rendez compte que les dépenses de l'État, elles continuent à augmenter. On est à 98% du PIB en dette. On est les mauvais élèves de l'Europe. 10 points en moyenne devant dans la zone euro. Et on ne baisse pas la dépense publique, on ne baisse pas la dette. Et donc, on continue à augmenter l'impôt massivement. La CSG plus 25%, ça fait mal pour les retraités notamment, et pas que. Et globalement, si vous voulez, on a vu une créativité en matière fiscale assez inquiétante. 8 taxes en 8 mois d'exercice du pouvoir. Moi, c'est ça que je condamne. Après, le ni droite, ni gauche, et de droite et de gauche, moi, ce que je vois, c'est le concret pour les Français. Concrètement, je ne vois pas la révolution promise, je vois plutôt la continuité de « on dépense un argent qu'on n'a pas, qu'on n'a plus depuis longtemps, et on va continuer à aller chercher dans la poche des Français pour financer des mesures qui, parfois, ne sont évidemment pas les bonnes, de mon point de vue. »
Vous dites, vous êtes libéral, bon, peut-être ultra-libéral.
Non, mais vous savez, ultra-libéral,
Ça
est ridicule.
Au sens intellectuel aussi du terme.
Je vais vous dire, il n'y a qu'en France, dans un pays où on a encore des trotskistes, où on a encore une appréciation très communiste ou marxiste de l'économie, que quand on parle d'économie libérale, on a l'impression que c'est un choc. Aux États-Unis, comme je l'ai dit, qu'on soit démocrate ou républicain, on est libéral économiquement.
Voilà. Mais vous parlez d'un libéralisme populaire, ça m'a intrigué.
Oui, parce que souvent, je trouve qu'il y a une caricature du mot libéralisme. On croit que le libéralisme, c'est la défense du capitalisme. Bien sûr que non. Pour moi, le libéralisme, c'est d'abord avant tout la défense des libertés. Et c'est penser qu'il faut, au contraire, miser sur les individus, sur leur capacité à créer de la valeur. Et notamment dans le domaine économique, c'est moins de réglementation, moins de charges, moins d'impôts. Faire confiance aux individus pour créer de la valeur. Et pour moi, c'est pour ça que c'est populaire.
C'est aussi moins de régulation. C'est-à-dire le marché s'autorégule.
Aussi moins de régulation, ça dépend des domaines.
Vous n'avez pas l'impression que ce libéralisme-là, il a fait la preuve aussi de ses difficultés au cours de ces dernières décennies?
Si je puis me permettre, on ne l'a jamais fait en France.
Non, mais
le seul qui a mené
la crise des subprimes aux États-Unis,
Non, mais là, vous prenez un autre accès. Là le mot « ultra » pourrait arriver à bon escient.
Donc, il faut de la régulation quand même.
Mais bien sûr, et je pense même qu'au contraire, c'est la vision d'un État. C'est là qui est intéressant. Moi, je suis frappée de voir que le gouvernement actuel, mais celui de François Hollande auquel Emmanuel Macron participait, n'avait pas de vision industrielle. Il faut une vision industrielle politique portée par l'État. Mais après, il faut laisser les acteurs pouvoir être compétitifs. Et c'est pas dans un monde où vous avez les charges les plus élevées, l'IS le plus élevé, les réglementations les plus importantes, les transpositions de normes européennes les plus contraignantes, que vous êtes compétitif. Donc c'est en ça que je crois effectivement à la liberté rendue aux acteurs économiques, mais là où je ne suis ni ultra-libérale ni totalement caricaturale dans cette approche, c'est que moi je crois à un régalien fort, et c'est pour ça que je suis droite. C'est que moi je pense qu'il faut réguler l'immigration, je pense qu'on a un problème de sécurité, de justice, de police, d'armée, qui ne sont pas assez dotées. C'est là où je voudrais qu'on mette la dépense publique, pour moi là c'est du bon argent public, mais pas dans de la gabegie de mille feuilles territoriaux qui ont montré leurs limites et dans d'une dépense qui est excessive et une fois encore qui est payée par tous les Français via les impôts.
Alors, pour parler de vous, Virginie Calmel, certains se demandent comment vous arrivez dans les eaux troubles à naviguer entre un Laurent Wauquiez qui se dit d'une droite décomplexée et un Alain Juppé, lui qui s'est éloigné de Paris, mais dont vous partagez les valeurs. Est-ce que c'est pas inconfortable, même si vous dites dans votre livre, vous dites que vous êtes plus à droite que beaucoup de juppéistes?
Oui, parce que je me suis rendu compte pendant la campagne d'Alain Juppé, et notamment dans ses éléments de langage autour de l'identité heureuse, dans les prises de position d'Édouard Philippe ou de Benoît Apparu notamment, que effectivement sur cette question-là, j'étais sans doute beaucoup plus à droite qu'eux, puisque moi j'étais plutôt en phase avec le projet pour un État fort, quota d'immigration, aménagement de l'aide médicale d'État, modification du droit du sol, enfin des décisions et des propositions qui étaient fortes dans le livre d'Alain Juppé, mais dans ses éléments de langage et notamment certains dans son équipe qui ne partageaient pas cette vision et qui avaient donc plutôt expliqué que, ou en tout cas c'est comme ça que les gens l'ont entendu, qu'on était dans l'identité heureuse et ça pouvait donner l'impression d'accommodement raisonnable.
Donc comment vous accommodez de ces
maintenant,
différences?
Je vais vous dire pourquoi je m'en accommode, c'est que moi je suis restée fidèle à moi-même. Voilà, j'ai pas changé. Ce à quoi je croyais, je le dis et j'y crois toujours, un libéralisme économique, je viens de l'entreprise, je pense qu'il faut redonner vraiment des marges de manœuvre aux entreprises, et un régalien fort, c'est mon socle idéologique, c'est ce à quoi je crois, c'est ce pourquoi je me bats, je le fais, je le dis, que ce soit à Alain Juppé, à Laurent Wauquiez, ou à tout autre, ou sur votre plateau télé. Moi, je n'ai pas eu un discours qui a été modifié sur les 4 dernières années de mon engagement politique. Il est récent, mais il est constant.
Oui. Non, mais le discours de Laurent Wauquiez, lui, s'est durci sur les questions d'immigration, sur les questions d'Europe, et aujourd'hui,
mais ça vous a pas échappé que Laurent Wauquiez et Laurent Wauquiez, et moi je suis Virginie Calmette.
Bien entendu. On a qu'est-ce que vous dit Alain Juppé à ce propos? Qu'est-ce qu'il vous dit Alain Juppé? Je ne sais pas s'il vous tutoie ou s'il vous voit, mais il vous dit Virginie, qu'est-ce que vous faites avec cet énergumène? Est-ce qu'il vous dit ça ou pas?
En l'occurrence, on est passé à autre chose depuis longtemps, parce que tout
vous voyez moins.
Non, pas du tout. Je suis toutes les semaines à Bordeaux. Je suis sa première adjointe. Ouais, donc on se voit.
Non, mais ça pourrait être strictement.
Alain Juppé, il a compris depuis longtemps ce que j'avais fait. Laurent Wauquiez...
Vous en veux pas?
Non, mais bien sûr que non. Laurent Wauquiez m'a tendu la main. Pourquoi il m'a tendu la main? Parce que justement, je ne suis pas son clone. Parce que justement, je ne suis pas 100% dans sa ligne politique et dans sa sensibilité. En revanche, j'appartiens à la famille de la droite. Mais comme cette famille de la droite, elle a toujours été avec ses multiples sensibilités. Rappelez-vous une époque où vous aviez Philippe Séguin, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Édouard Balladur, Jacques Chirac. Il y a eu cette pluralité.
Le maire, Gérald Darmanin, qui était aussi...
Absolument. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on me fait tout le temps, on me pose cette question comme si j'avais fait un grand écart idéologique colossal, alors qu'on était dans la même famille politique que Alain Juppé, qu'on courait, je vous le rappelle, dans la famille de la droite et du centre aux primaires. Il n'était pas chez Macron. Et voilà, donc c'était la même famille politique, Fillon, Sarkozy, Juppé. On a surréagi sur leurs différences, mais le socle commun de valeurs, il est là. Et moi, je reste attachée à ma famille politique, qui est celle de la droite. Et c'est très étrange qu'on pose pas ces questions à des gens qui font vraiment le grand écart, parce que je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, c'est de Cohn-Bendit à Alain Madelin, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et là, ça choque personne, alors qu'on voit bien...
Non, parce qu'il arrive un peu vierge en politique.
Mais... Oui, mais moi aussi, madame. Oui, j'ai 4 ans de politique, je suis totalement vierge. Moi, je considère, en politique, je considère que, si vous voulez... et on a des convictions, on continue à les défendre. Là où je les défends, de mon point de vue, le mieux, c'est dans cette famille de la droite que je souhaite plurielle. Oui. Je souhaite pas qu'elle se réduise à la sensibilité de tel ou tel, mais que nous fassions la synthèse, et c'est ce que doit faire Laurent Wauquiez. C'est pour ça qu'il a des profils autour de lui, de sensibilités différentes. Il y a des gens plus de la droite, on va dire conservatrices, d'autres plus issus du centre. Moi, je suis effectivement une libérale populaire qui croit à un régalien fort et qui se sent bien à droite.
Alors, la pression se fait quand même de plus en plus grande de la part de certains pour se rapprocher du Front National. Donc, vous faites partie, vous, de ceux qui disent non tout de suite. Mais, in fine, est-ce que dans quel type de ceux, mais comme si vous, quand vous dites ça, on dirait que je serais seule. On fait tous, on a à peu près tous dit la même chose. Je connais personne dans ma famille politique aujourd'hui qui a dit autre chose que pas d'accord avec le Front National.
Il y avait eu Thierry Mariani.
Partie de la direction des LR.
Bon. Voilà, alors si vous comptez direction, bien évidemment.
Mais c'est important. Alors, c'est important parce que on doit avoir une vision là claire et unifiée de notre positionnement politique.
Alors ma question est-ce que vous n'allez pas à un moment vous voir réduire votre espace politique, c'est-à-dire entre un Macron qu'on n'arrive pas dans le fond à mettre sur l'échiquier politique, ça va de la gauche, vous le disiez, de Cohn-Bendit à la droite. Non mais d'accord.
Tant qu'il ne réglera pas les flux migratoires, on voit bien qu'au fond il ne fait pas une politique
La question est que si à un moment votre champ se réduit, est-ce que vous ne serez pas contraint à un moment ou un autre, pour gagner les élections, il faudra tricoter avec le FN.
Ça, ce serait de la tambouille politicienne, comme vous venez de le dire.
Mais c'est comme ça qu'on gagne les élections.
Oui, mais là encore, excusez-moi, mais pour moi, la politique, c'est d'abord un engagement de valeur, de conviction. On a envie de défendre nos idées. Si on a les mêmes idées, tous les gens qui partagent nos idées, ils sont les bienvenus, qui rejoignent LR et qui soutiennent LR. Quand j'entends M. Dupont-Aignan, qui s'est présenté au premier tour de la présidentielle, qui a fait 4,7% de mémoire au premier tour. Vous vous rendez compte, s'il ne s'était pas présenté, s'il pense vraiment que finalement avec LR il y a quelque chose à faire, pourquoi il s'est présenté à ce moment-là? François Fillon aurait récupéré ses 4,7%. Je pense que tout simplement M. Dupont-Aignan ne pensait pas que François Fillon représentait ses valeurs en totalité. Et c'est pour ça, sans doute, qu'il s'est présenté, parce qu'il a une offre politique qui est différente. Oui, quand vous regardez le projet économique
Nicolas Dupont-Aignan, il propose un rapprochement sur une question précise, qui est celle de l'immigration. Vous en avez parlé à plusieurs reprises vous-même. C'est sur l'immigration qu'il veut... une entente avec Marine Le Pen et Laurent Wauquiez. Or, qu'est-ce que Laurent Wauquiez dit de différent de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan sur l'immigration? Très franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit de différent?
Beaucoup de choses, et
on les entend peu.
Mais je vais vous dire, il y a un diagnostic commun, il faut l'assumer. Est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui...
Donc ça, c'est le constat de Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes d'accord sur le constat? Il y a
un diagnostic
commun.
Sur les solutions que nous préconisons, nous n'avons pas les mêmes. On va dire que le Front National et Nicolas Dupont-Aignan ne sont pas très éloignés. Mais sans vouloir faire offense à l'un ou à l'autre, globalement, ce sont des souverainistes. Ils veulent sortir de l'Europe, ils veulent sortir
c'est
de l'euro.
Chose, ça.
Mais attendez,
Wauquiez n'aime pas trop l'Europe, quand même. Il avait un peu applaudi au Brexit.
Mais là encore, Laurent Wauquiez, aujourd'hui, il est le président d'une famille politique. Il a été élu démocratiquement à 75% des suffrages et il doit tenir compte de cette famille politique. Ce qu'il a dit il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc., c'était son avis personnel. Aujourd'hui, il représente une famille politique. Il va y avoir un débat au sein même de cette famille politique.
Vous êtes en train de me dire qu'on peut...
Il y aura une ligne...
ses convictions quand on est d'un parti.
C'est pas ce que je veux dire. C'est d'abord ses convictions. Il les a énoncées dans les derniers mois. Après, on peut évoluer aussi. Et je trouve qu'avec Laurent Wauquiez, on lui fait toujours le procès. On lui colle des étiquettes eurosceptiques. Écoutez, moi, ce que j'ai entendu sur les derniers mois, depuis qu'il est président sur l'Europe, c'est pas des position d'eurosceptique. En revanche, Dupont-Aignan ou Marine Le Pen, c'est une évidence. Sur l'immigration, par exemple, on nous fait le procès, Marine Le Pen a demandé la suppression du droit du sol. Nous n'avons jamais demandé la suppression du droit du sol. C'est un exemple de différence. Donc, sous prétexte qu'elle demande la suppression, nous disons qu'il faut aménager ce droit du sol, rendre les choses plus contraignantes.
Laurent Wauquiez n'a évoqué la suppression
du droit du sol. Il n'a pas évoqué la suppression, il a évoqué un aménagement du droit du sol.
Qui reviendrait à une forme de suppression du droit du sol.
Ça ne revient pas à la même chose. C'est demander à ce que les parents d'enfants nés sur le sol français ne soient pas en situation irrégulière. Voilà, c'est mettre des... Et d'ailleurs, dans le projet d'Alain Juppé, il y avait également cette condition. condition pour un des deux parents. Donc vous voyez bien que la droite a, et puis vous savez, il y a des propositions qu'on a faites bien avant le Front National. Ouais. Parce que le Front National, je vous le rappelle, c'est Monsieur Mitterrand qui l'a fait monter dans notre pays. Mmh. Un peu par cynisme. Et quand je vois Emmanuel Macron aujourd'hui, moi parfois j'ai l'impression d'avoir Mitterrand au carré. C'est-à-dire que non seulement il fait monter le Front National, mais il fait monter la France Insoumise. Mmh. Parce que c'est tellement confortable de se retrouver face à deux, à des extrêmes où effectivement, on sent bien que ce ne sont pas des partis de gouvernement solides et donc qui ne sont finalement pas des opposants.
Vous pouvez très bien vous rentrer dans le jeu. On vous a pas entendu là ces derniers temps.
Vauquier,
bah, je sais pas sur.
Non, on n'a pas l'impression. Nous prenons la parole.
Vous êtes sur le terrain. Nous, on n'a pas l'impression que vous faites des propositions.
Au contraire, souvent d'ailleurs, on est critiqué à chacune des propositions qui sortent sur l'immigration. Vous pouvez pas dire qu'on n'a pas fait des propositions. Nos députés se sont battus à l'Assemblée nationale. Aucun amendement proposé par les Républicains n'a été retenu par le gouvernement, preuve d'un certain sectarisme.
Mais on comprend pas bien le projet de la droite.
On a plus le temps de se lancer dans le projet. Ouais. Il nous reste 30 secondes.
Non, mais...
Si vous voulez conclure en quelques secondes ce que vous disiez à l'instant.
Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que notre droite, elle existe. Nous sommes de droite, revendiqués de droite. Ouais. Ceux qui pensent qu'ils pensent comme nous, ils sont les bienvenus. Mais arrêtons les bidouillages politiciens. Monsieur Dupont-Aignan a fait un accord avec le FN au deuxième tour de la présidentielle. Pourquoi en faire un maintenant avec les Républicains?
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci et on se retrouve la semaine prochaine.
Merci et puis...